BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Il est 9h30, vous êtes en direct sur BFM Business, c'est les experts. On est parti ensemble pour une heure de débat et de controverse. Avec cette question ce matin, la bombe démographique est-elle en train de devenir le sujet économique numéro un? Pendant des années, la France s'est focalisée sur le chômage. Comment faire baisser le nombre de demandeurs d'emploi? Avec la baisse des naissances, le problème des 20 prochaines années pourrait être exactement l'inverse. Où trouver les travailleurs? Une des solutions, ça serait plus d'immigration, un tabou politique qui pourrait devenir une nécessité économique. Ou alors travailler plus longtemps, repousser l'âge de départ en retraite. Seule solution favorable à la croissance, selon le Conseil d'orientation des retraites qui va remettre son rapport jeudi. Une solution évidemment tout aussi explosive politiquement. En attendant, ce sont les déficits qui se creusent. Le think tank Avant-Garde estime qu'il faudra trouver 113 milliards d'euros d'efforts d'ici 2033, simplement pour stabiliser la dette. Et selon ses calculs, eh bien les deux tiers de l'effort passeraient par des hausses d'impôts. Alors une nouvelle bombe fiscale en vue, ce sera le troisième débat des experts. Et puis on reviendra en fin d'émission sur l'échec du SCAF, l'avion de chasse européen. Pourquoi est-ce si dur de construire des champions industriels européens? Ce sera le dernier débat. Allez, il est 9h31, vous êtes en direct sur BFM Business, c'est parti. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Anaïs Voigilis. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
Chercheuse associée au CEREJ de l'IAE de Poitiers. Face à vous, Ronan Lemoyle. Bonjour Ronan.
Bonjour.
Fondateur d'Épopée Gestion, fonds d'investissement régional. Et dans quelques minutes, va nous rejoindre Olivier Babeau, le président de l'Institut Sapiens. Alors je le disais, le grand sujet de cette émission, ça va être la bombe démographique après la publication des prévisions à horizon 2070 de l'INSEE. La bombe démographique est-elle en train de devenir le sujet économique numéro un, avec ce point de bascule, hein, à partir de 2037, la population française va baisser. On va perdre jusqu'à 3 millions d'habitants à horizon 2070. Ça pose énormément de questions, bien sûr, on va les balayer tous ensemble ce matin. Mais première question assez simple, hein. Est-ce que le vieillissement, Ronan, allez, je commence avec vous, est-ce que le vieillissement devient le problème numéro un économique en France?
Moi, j'ai envie de vous dire, c'est ce qui ça m'aspire surtout, ce que je ne peux pas empêcher de demander, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Et je pense que ce que ça veut dire, c'est que pour une partie en tout cas, il y a un manque de confiance en l'avenir. C'est-à-dire quand une population commence à décliner, quand on commence à avoir des projections de population en baisse, ça veut dire que finalement une partie de la jeunesse, une grande partie de la jeunesse ne croit plus finalement en l'avenir, fait moins d'enfants et donc on voit la population décliner à terme. Donc le premier élément intéressant, je pense, c'est ça, c'est pourquoi. Je pense que c'est un élément fort, ça veut dire qu'aujourd'hui on ne voit plus de perspectives d'avenir, on ne voit plus de projets, on ne voit plus de sens finalement à faire des enfants, et donc c'est ça qui amène à la situation dans laquelle on va potentiellement se trouver à l'horizon que vous évoquez.
Ce n'est pas un sujet national, hein, c'est un sujet
Mais par contre c'est intéressant parce que ça pose les bases...
toutes les sociétés occidentales.
Voilà, ça pose les bases de tout le reste. Et une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on s'y prend effectivement pour redonner un petit peu d'élan et faire en sorte qu'on ne soit pas dans une impasse? Alors il y a le sujet de l'immigration, on y reviendra sans doute tout à l'heure. Il y a aussi le sujet, je pense, de redonner des perspectives sur ce que le pays peut être capable de créer comme richesse, comme emploi, pour ces seniors sans doute, pour la jeunesse demain. Il y a un grand sujet qu'on appelle la réindustrialisation de la France et dont on parle régulièrement partout. Je pense que c'est un vrai sujet qu'il faut vraiment ouvrir. Il n'est pas ouvert comme il devrait l'être. C'est-à-dire qu'on voit des petits plans ici ou là naître portés par l'État sur des enveloppes insuffisantes et qui génèrent d'ailleurs des déficits additionnels qui seront de l'impôt demain. Et je pense que c'est un peu ma marotte qu'on devrait plutôt s'appuyer massivement sur les grands enjeux de transition qui sont devant nous, sur les grands enjeux que ça suppose en termes d'investissement productif, industriel, dans l'énergie, et faire en sorte que tout ça soit un élan important pour générer de l'emploi demain. Donc je pense qu'il y a un diagnostic qui est, c'est forcément un manque de confiance en l'avenir quand on voit ça se dessiner. Et puis malgré tout, et c'est ça le paradoxe, il y a des perspectives très positives sur lesquelles on pourrait s'appuyer, qui sont ces énormes enjeux de transition auxquels on fait face, cette production, d'indépendance énergétique par exemple, et tous ces sujets qui peuvent générer demain des grands sujets d'investissement et donc générer de l'emploi pour les seniors, pour les plus jeunes, et donc éviter peut-être, en tout cas j'espère, cette impasse vers laquelle on se dirigerait.
Ouais, on voit que ça va peser, en tout cas, évidemment, sur la croissance. La Commission européenne estime déjà que le vieillissement pourrait retirer 0,2 points de croissance par an à la France. Est-ce qu'on sous-estime aujourd'hui le choc à venir qu'est le vieillissement de la population, Anaïs Vogelis?
Je ne sais pas si on le sous-estime, en tout cas, vous l'avez dit, c'est quand même pas uniquement un problème français, c'est un problème européen. On voit la même chose en Allemagne, en Italie, on voit... Également, ce problème démographique qui se pose en Chine, hein, ça va interroger le modèle chinois dans les années à venir, surtout un modèle fondé sur les surcapacités de production. On le sous-estime dans le sens où on n'a pas encore pris l'ampleur du choc, mais pour moi, ça va poser, d'une certaine manière, trois défis. Un premier défi qui va être un défi de répartition géographique, parce qu'en fait, la question de la natalité va pas se poser de manière uniforme sur le territoire. On a des territoires qui vont continuer à attirer des populations, soit via l'immigration, soit des personnes en France qui vont continuer à s'y installer, et à avoir des enfants, etc. Ce qui, pour revenir sur la question de l'industrie, pourrait poser une double peine pour l'industrie. Un vieillissement dans des territoires où l'industrie s'implante, parce qu'on déplace pas une usine comme on déplace d'autres activités, dans un secteur qui peut lui-même avoir des difficultés de recrutement. La deuxième chose, c'est que question de la démographie, c'est une question de questionnement de notre modèle social. C'est-à-dire qu'on a quand même un modèle social qui est fondé sur une démographie dynamique, positive. Aujourd'hui, la tendance s'inverse, donc c'est toute la question qui vont être posées, qui se pose avec les retraites. Et donc, comment on fait fonctionner une économie qui ne grandit plus? Et ce qui nous amène à un troisième sujet, c'est pas tellement la quantité de travail, mais la question de la productivité, parce qu'il y a des pays qui déclinent. Je vous parlais de l'Allemagne, on peut donner l'exemple du Japon, on peut donner l'exemple de la Corée, et pour autant qui continuent à avoir de la croissance. Donc c'est l'adaptation de l'économie finalement à ce problème démographique.
Donc c'est possible, on n'est pas foutu quoi. Il y a des solutions quand même.
Il y a des solutions, et la dernière chose, c'est faire attention, parce que la première réaction, Emmanuel Macron avait parlé du réarmement de la France, ça serait une injonction à la natalité.
Oui.
Alors je pense qu'il y a toute la question du cadre, hein, c'est ce que vous souleviez, la question du logement, la question du coût de la vie, la question de la stabilité professionnelle, et aussi certainement une certaine angoisse chez les générations, les jeunes générations, avec la question climatique qui aujourd'hui n'est pas résolue et qui est franchement un repoussoir, se demande dans quel environnement les enfants vont grandir, la question géopolitique, on est dans un monde particulièrement angoissant, et donc au-delà de l'injonction nataliste, c'est comment on donne un cadre, et un cadre à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle mondiale, qui donne envie de croire en l'avenir.
Ouais, donc on le voit, hein, c'est quand même des grandes questions fondamentales de société qui se posent là face au vieillissement de la population. Une des solutions, c'est ce qu'indique l'INSEE, le corps, c'est l'immigration. Quand la natalité baisse, bah, ça recourt accru à l'immigration, sauf qu'on voit qu'il y a quand même des tensions politiques assez fortes.
Oui, c'est vrai. Dans le juste deux points, comme pour reprendre deux exemples, le logement par exemple et l'industrie. Je pense qu'on est un pays aussi dans lequel l'Europe, je change large, mais notre pays en particulier, qui a tendance à trop fonctionner par la norme. C'est-à-dire qu'on a tendance à tout vouloir normaliser. Alors sur le logement, on ne va pas revenir sur toutes les contraintes qui pèsent depuis quelques années maintenant et qui amènent à la situation dans laquelle on se trouve, c'est une pénurie de logement et donc un gap qu'il va falloir franchir les années qui viennent qui est incroyable. Sur l'industrie, moi je ne peux pas empêcher de penser qu'on a aujourd'hui une manne hyper importante pour la financer via l'assurance vie et autres et qu'on s'ingénie à faire des programmes de quelques dizaines de milliards alors que ce n'est pas à l'échelle de l'enjeu qui, encore une fois, sont financés par les déficits publics. Donc je pense qu'on se met nous-mêmes des carcans qui, quelque part, nous empêchent de peut-être concentrer le pays, ça m'amène au sujet de l'immigration, sur des sujets qui sont des sujets régaliens de l'État, et l'État se concentre sur la justice, la sécurité, les politiques migratoires et comment on assure une bonne intégration, la formation de la jeunesse, et laisse peut-être libérer un peu plus ses énergies sur la partie économique pour faire en sorte, effectivement, qu'on évite ce gap. Si on pense que l'État, c'est un peu le rôle qu'on a voulu le faire jouer, peut tout faire, je pense qu'on se trompe. Alors, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte quand je dis ça, mais malheureusement, j'ai l'sentiment qu'on est un peu dans la caricature de cette situation depuis maintenant quelques temps. Et effectivement, peut-être qu'une des solutions, pour le coup, c'est peut-être de venir vers l'immigration, sans nier malgré tout ce que ça inspire aujourd'hui, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus être...
On a l'extrême droite qui est aux portes de l'Élysée pour 2027.
Si on est un peu démagogique, effectivement, on s'engouffre dans la brèche, on dit effectivement, allons-y follement, l'immigration est la solution. Si on est un peu pragmatique, on dit, il y a malgré tout aujourd'hui des questions qui se posent en France, chez les Français, qui sont des questions sécuritaires, des questions qu'ils assimilent peut-être trop rapidement à l'immigration. Il s'agit donc que l'État se recentre sur ces sujets, dit comment une politique migratoire bien choisie, avec une bonne intégration, des politiques de formation, des perspectives qu'on donne, peut être une solution en tout cas partielle au sujet qu'on peut avoir d'un point de vue démographique. Et là, on peut faire des choses. Mais je pense que dans la manière d'aborder la question ou d'amener le débat sur la table, il faut être assez vigilant parce qu'on pourrait vite tourner pour un démagogique si jamais, en tout cas, on ne prend pas quelques précautions oratoires.
Évidemment. Alors qu'Olivier Babot nous a rejoint sur le plateau. Bonjour, bonjour Olivier, je rappelle, président de l'Institut Sapiens. On continue de décrypter les conséquences de cette bombe démographique qui nous attend avec la réduction du nombre de la population d'ici 2037. C'est demain, hein, Olivier Babot.
Alors, c'est demain, et ma première réaction, c'est quand même une réaction de colère, parce qu'en réalité, ça fait extrêmement longtemps qu'on sait tout ça. Ça fait même depuis la décision de la retraite à 60 ans et non pas 65 ans qu'on savait qu'il y avait un problème. J'ai la chance d'être le fils de l'économiste André Babot, qui, au tout début des années 80, a écrit un livre qui s'appelle « La fin des retraites », où il avait déjà, il suffit de lire l'introduction, parce que c'était donc il y a 40 ans, et il explique exactement ce qui est en train de se passer, où il dit le risque, c'est qu'il y ait une opposition d'ailleurs intergénérationnelle et donc un problème social. On avait à l'époque fait les additions. Ça fait assez longtemps que notre démographie n'est pas bien orientée et que les conséquences sont assez inéluctables. Ce qui m'étonne le plus, c'est la capacité d'une partie de l'échiquier politique à continuer à être dans le déni.
C'est le déni, c'est ça, c'est la question que je vais vous poser.
La solution puérile du « les riches paieront », etc., néglige totalement la taille des grandeurs en jeu, en réalité. Et donc, il y a évidemment trois solutions. On cotise plus, mais c'est déjà extrêmement élevé. Quand vous êtes jeune, cotisez 28% de votre salaire. Et on vous dit en plus, attention, ça va disparaître, il va falloir que vous cotisiez une deuxième fois pour votre retraite par capitalisation, ça commence à faire beaucoup. Évidemment, baisser les pensions, à terme, ça va probablement être une des solutions, c'est-à-dire qu'on va baisser, on va désindexer les pensions les plus élevées. Ça veut dire que le principe de correspondance entre vos cotisations et ce que vous touchez à la fin va être de plus en plus érodé, probablement à la fin. Ce à quoi vous aurez droit, c'est une sorte de minimum vieillesse collectif au même niveau, quel que soit votre niveau de cotisation, ce qui, légitimement, pour ceux qui ont beaucoup cotisé, va quand même provoquer une forme de refus.
Voire de sécession.
De sécession, exactement. Ce système est extrêmement mal orienté. Vous avez peut-être parlé de l'immigration déjà, ce qui est évidemment une des questions. Hein. Est-ce que si on diminue, on vieillit cette immigration sur le principe, très bien, si elle est différente de celle d'aujourd'hui, parce qu'en pratique, les études montrent que sur l'ensemble du cycle de vie, malheureusement, c'est plutôt un coût net compte tenu du fait que le recours au logement social...
Alors ça, c'est une vraie question, ça. Est-ce que l'immigration rapporte de l'argent ou en coûte plutôt? Il y a un véritable débat entre économistes et ces mesures. Et donc vous nous dites que...
À l'heure actuelle, et comme dans d'autres
coûteux.
Pays, je crois, je me demande si c'est pas la Norvège ou la Suède qui avait étudié ça, mais en fait, en réalité, sur le cycle de vie, malheureusement, c'est plutôt négatif, parce qu'on a un taux de chômage qui est supérieur, et que donc c'est pas exactement celle qu'il nous faut. La deuxième
question,
chose
c'est aussi... Quelle immigration? Est-ce que c'est une immigration familiale ou une immigration
de travail?
De travail, choisi.
Bien sûr. Et puis, moi, je suis obsédé, évidemment, par l'intelligence artificielle. Bon. Si on pense vraiment que ça fait une révolution, ça pourrait être peut-être une lueur d'espoir, quelque part. Si demain, notre croissance explose, notre productivité explose, peut-être que nous avons une solution plus facile qu'on le croit au problème de la dépendance et de notre déséquilibre. Et on peut aussi imaginer que ça soit une données à prendre en compte dans l'immigration dont on a besoin, parce que si les robots humanoïdes qui sont en fait déjà là, qui arrivent,
oui,
qui sont déjà présents à partir de la Chine, qui vont être commercialisés, commencent à remplacer massivement tous ces emplois peu qualifiés qui sont en fait aujourd'hui les emplois en tension pour lesquels on dit il nous faut l'immigration, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on réfléchisse très très bien aux gens dont on a besoin. Typiquement, il nous faudrait quand même beaucoup plus des travailleurs intellectuels que des travailleurs manuels.
Bon, mais les robots font peut-être les deux avec l'IA.
Et les robots font d'ailleurs les deux.
Anaïs Vogelis.
Oui, je crois qu'il ne faut pas penser que l'intelligence artificielle ou les robots ou toute autre forme qui pourrait se substituer à l'activité humaine ne remplacera que les activités peu qualifiées. Il y a des métiers peu qualifiés aujourd'hui qu'on ne sait pas automatisés, comme il y a des professions ultra qualifiées qui vont être balayées par l'IA, parce que l'IA résonne beaucoup plus vite pour synthétiser des textes complexes et ne fait que s'améliorer. Et je pense qu'il y a trois choses derrière ça. Un, pour revenir à la question démographique, je pense qu'il ne faut pas penser l'immigration comme une politique démographique, mais comme un amortisseur économique. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument pas opposer immigration qualifiée et immigration non qualifiée. La question qui se pose derrière ça, c'est plutôt la capacité du marché du travail à intégrer les personnes issues de l'immigration.
Avec la formation,
et on en revient aussi à la question de la distribution sur le territoire. Il y a des territoires où on a un taux de chômage qui est très élevé et ce n'est pas que lié à la question de l'immigration ou non de l'immigration, et on a des industriels qui n'arrivent pas à recruter. De la même manière qu'on a des métiers pénibles dans l'industrie, sur lequel il y a des postes à pourvoir. Ça ne veut pas dire que ces postes doivent être destinés spécifiquement à l'immigration, mais qu'on a un certain nombre de problèmes qui ne sont pas résolus, immigration ou non. Et que dans certains métiers industriels, on est bien content d'avoir une main-d'œuvre issue de l'immigration qui vient prendre ces postes. Je vous renvoie à certains métiers dans l'agroalimentaire, notamment tous les métiers liés à l'abattage d'animaux, etc. Sans rentrer dans la considération, faut-il manger ou pas de la viande pour des questions climatiques. Il y a des métiers aujourd'hui où c'est les gens issus de l'immigration qui prennent ces emplois-là. Donc ça ne résout pas tout, mais c'est une question qu'il ne faut pas évacuer. Et la dernière chose, c'est que on parle beaucoup de souveraineté. On ne pourra pas être souverain sans une capacité à maîtriser les compétences sur notre territoire. On a besoin de toute une palette de métiers et l'immigration est aussi une réponse à la souveraineté industrielle.
Pendant le moelle.
Je pense que le sujet de l'IA, il est très intéressant parce que si on pousse le raisonnement à l'extrême. Moi, je suis de ceux qui pensent effectivement que possiblement, d'ailleurs Elon Musk l'a dit, on se dirigerait, alors je ne sais pas ce que je veux, hein, on se dirige vers une société de loisiveté, c'est un peu...
Mais oui, c'est la grande question qui agite
poussons le raisonnement
la Silicon Valley aujourd'hui. Hein, est-ce que le travail va disparaître à terme.
Moi, mon associé rentre de Chine, quand il est rentré il y a 10 jours, il dit quand je rentre de Chine, effectivement, entre l'IA pure, les humanoïdes et tout ce qu'on voit, d'ailleurs qui pose des vrais problèmes, y compris chez eux, parce que pour le coup, ils ont, quoi qu'on en pense, beaucoup de main-d'œuvre utilisée pour des travaux à faible valeur ajoutée. Donc, mais poussons le raisonnement à l'extrême. Si on va vers l'IA, effectivement, qui est un sujet de productivité accélérée, donc une société dans laquelle il y aurait moins de travail ou moins de besoin de travailleurs, je pense que c'est la caricature du problème qu'on rencontre aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est pas ça qui solutionnera le problème de la perspective qu'on donne aux gens. N'importe qui dans sa vie, une société, un pays, une nation, a besoin de perspective, de projet dans lequel il se projette. Un destin commun, on appelle ça comme ça, puis ensuite sa propre vie dans laquelle on est capable de se projeter. Et je crois que l'IA, quand on pousse le raisonnement à l'extrême, c'est la caricature de ce qu'on vit aujourd'hui. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est l'impossibilité d'une nouvelle génération de se projeter avec des perspectives, d'avoir un emploi intéressant, de pouvoir subvenir à ses besoins à la retraite. De s'opposer aussi tout doucement à la génération précédente qui aurait gaspillé les ressources naturelles, qui concentrerait, ce qui n'est pas totalement faux d'ailleurs, les ressources économiques. En fait, c'est ça auquel on assiste. Et donc, je pense que si on veut effectivement réussir à remettre tout cela dans le bon ordre, il faut d'abord un État qui se recentre sur ce qu'il doit faire. Ces missions régaliennes que j'évoquais tout à l'heure, y compris d'ailleurs les sujets d'immigration choisis pour des sujets sur lesquels c'est important. Il faut deuxièmement une vraie politique pour le pays, une vraie politique qui soit un choix qu'on fasse, pays et Europe, un choix qu'on fasse d'une direction dans laquelle on veut aller. Et dans cette direction, il y a forcément des grands sujets autour de, là aussi j'enfonce des portes ouvertes, la réindustrialisation de notre pays au regard de ce qu'on a pu observer ces 6 dernières années, compte tenu du choc post-Covid, avec toutes les dépendances des chaînes logistiques, industrielles qu'on connaît vis-à-vis d'autres grands pays, la Chine en faisant partie, et les États-Unis également. Et ça, je pense que c'est les deux thématiques importantes. Remettre l'État là où il doit être, redonner de la capacité de faire aux industriels, qui suppose deux choses. Un, une politique industrielle réelle. Deux, libérer les financements qui permettent d'accélérer cette politique industrielle. Et c'est pas les financements publics, c'est pas les finances publiques qui vont le permettre. C'est l'argent privé. Mais ça, c'est une manière de réconcilier la retraite par capitalisation, qui existe déjà, ça s'appelle l'assurance vie, avec les besoins de leur face. Parce que ces besoins, ils sont colossaux. Et donc, on est face à une situation complexe, difficile, lourde. Et en même temps, on n'a jamais eu autant d'opportunités devant nous. Donc, je pense qu'il y a une équation qui existe aujourd'hui, qui permettrait, alors il faut aussi sans doute un projet d'abord, donc une fois qu'on aurait ce projet, de remettre un peu de tout aligné pour effectivement éviter d'aller, pour reprendre mon point tout à l'heure, vers une société qui n'aurait pas d'autre perspective que l'oisiveté.
Évidemment, la présidentielle va être l'occasion de développer pour chacun des candidats ce projet de société pour, en tout cas, les 5 années à venir, ce qui est un horizon assez court terme. Mais ce que j'entends de ce que vous me dites tous les trois ici autour de la table, c'est qu'il y a quand même un véritable sujet générationnel. François Villeroy de Gallo, l'ex-gouverneur de la Banque de France, avait parlé de gérontocratie, c'est pas un mot qu'on entend souvent dans la bouche d'un banquier central. Est-ce que c'est d'abord et avant tout ça l'urgence, Olivier Babot ?
Je crois qu'il y a aujourd'hui, on le voit parce que ça se traduit aussi électoralement parlant, puisque les jeunes votent beaucoup aux extrêmes. Il y a une forme de méfiance, d'insatisfaction et peut-être de rupture de génération qui est assez compréhensible. Avoir 20 ans en 2026, c'est pas facile. On vous explique qu'effectivement, du point de vue immobilier, vous ne pourrez jamais élever une famille là où vous avez grandi. Vous allez devoir être repoussé de plus en plus loin. Même la perspective de devenir propriétaire, si vous n'êtes pas héritier d'une façon ou d'une autre, même si vous avez fait beaucoup d'études, que vous êtes un couple qui travaille, biactif, devenir propriétaire et élever une famille dans une grande ville paraît extrêmement difficile, alors que c'était possible évidemment pour nos parents ou nos grands-parents. La deuxième chose, c'est qu'on leur explique que la retraite, ils vont devoir, comme j'ai dit, cotiser deux fois. Ça commence à faire un peu lourd sur le salaire. On leur explique que s'ils travaillent beaucoup, on va leur prélever toujours plus. Donc finalement, s'élever par le travail sous nos latitudes en France est extrêmement difficile, est extrêmement long. Et puis la troisième chose, maintenant, c'est quand même qu'il y a une forme de job apocalypse des juniors qui commence à se dessiner.
Que vous partagez ou pas, hein, face à l'IA, l'intelligence artificielle.
Je partage cette crainte et je crois qu'elle a déjà lieu dans certains endroits. Moi, je ne croise que des chefs d'entreprise qui m'expliquent qu'ils n'ont plus besoin de juniors en ce moment et qu'ils ont considérablement ralenti l'embauche des juniors. Alors, ça doit être dépendant. C'est vrai que c'est plus fort, je ne sais pas, dans les cabinets d'avocats, dans le conseil, dans certaines activités. Oui. Mais je ne sais pas, j'ai vu récemment, ce week-end, l'analyse financière. Bon, ben voilà, on n'a plus besoin d'une même nombre de jeunes, donc ça fait quand même beaucoup. On dit aux jeunes, ah oui, et à ce propos, l'économie n'a même plus besoin de vous. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Ça va évidemment se traduire dans des formes de contestation et protestation contre l'équilibre. Aujourd'hui, c'est la fameuse opposition contre les boomers qui est un débat qui est complexe, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de sujet. Voilà.
Vous réagissez beaucoup hein, sur mon compte Twitter, et n'hésitez pas à @legenrat. J'ai Alternance qui nous dit que le taux d'emploi des 15-24 ans est passé de 54% en 1975 à 30% aujourd'hui, alors que sur la même période, le taux d'emploi des 50-64 ans est lui passé de 58% à 70%, ce qui me semble un chiffre peut-être un peu élevé, mais on n'est pas très loin. Le problème n'est-il pas l'entrée sur le marché du travail, nous demande Alternance. Anaïs Vagilis.
C'est vrai que c'est une bonne question. Moi, je suis pas convaincue qu'il y ait plus de place pour les jeunes. La question, c'est plutôt quel métier et quelle perspective. En fait, on a formé pour un certain nombre de métiers qui aujourd'hui sont en train de se transformer sous l'effet de l'évolution technologique
et de
l'IA. Mais il y a une quantité de métiers en fait qu'on va pas pouvoir remplacer avec l'IA. Alors peut-être un jour avec des robots, et la question se posera différemment sur la répartition de la valeur. Mais en fait ça va être le retour aussi, la prime retour des métiers manuels.
Bah oui.
Et donc ça va poser la question de comment on valorise ces métiers dans notre société. En fait, il y a des métiers qui ont suffisamment de valeur pour ne pas être remplacés par une machine. Et il y en a d'autres, finalement, qui peuvent être substitués par une machine. Et donc, ça risque d'être une inversion de la valeur et de la représentation de certains métiers. Donc, ça oblige à questionner quel est l'appareil de formation, qu'est-ce qu'on valorise dans notre société et comment on le rémunère. Il y a, vous allez dans toutes les usines de France, une quantité de métiers qui ne pourront pas être remplacés par l'IA. Alors, bien entendu, les métiers dits fonction support, on va pouvoir les optimiser, améliorer la productivité en s'appuyant sur l'IA et tout un tas d'applications. Un opérateur sur une ligne de fabrication, on en aura encore longtemps besoin. Il y a un certain nombre de métiers. Vous allez dans les industries chimiques, les opérations de maintenance, aujourd'hui, vous ne pouvez pas les réaliser avec un robot. Vous allez dans l'industrie automobile, de la même manière, les opérations de maintenance, vous ne pouvez pas les automatiser. Vous allez dans certaines usines d'assemblage très, très, très automatisées. Il y a des métiers aujourd'hui qu'on ne sait pas automatiser. Peut-être qu'on y arrivera dans 10 ou 15 ans. Et après, ça pose la question de la société qu'on a envie de construire. Si on part défaitiste en se disant que les robots feront tout, bah très bien, organisons une société où les robots feront tout, l'IA fera tout, et on se questionnera sur la répartition de la valeur. Et donc là, on est vraiment sur une question de choix de société, mais je refuse le discours de dire « Ah bah c'est foutu, tout va être automatisé, on va être remplacé partout ». C'est pas une société qui donne de l'espérance et qui donne la question... Et la dernière chose pour répondre à la question, oui, il y a un problème d'intégration sur le marché du travail au début. Comment est-ce que les jeunes rentrent de plus en plus tardivement aussi sur le marché du travail? On a beaucoup focalisé l'attention sur les seniors parce que c'était un sujet, et ça restera un sujet après 55 ans, sur le taux d'emploi des postes 55 ans, et donc on a décalé le problème sur les entrants sur le marché du travail, avec en plus une entrée qui se fait de plus en plus tardivement.
Alors tout n'est pas foutu, ça peut être une solution face à la baisse de la natalité aussi. C'est ce que nous dit Bob Mayer, la Chine, leader mondial dans le physical AI, l'intelligence artificielle physique, prévoit grâce à son industrie de robots humanoïdes de compenser jusqu'à 60% du déclin de sa force de travail à horizon 2035. Je rappelle que la Chine, c'est quand même une population divisée par deux, les projections d'ici 2100, il n'y aura plus que 750 millions de Chinois. Renaud Lemoyle.
D'abord, la Chine a déjà des usines dans lesquelles les humanoïdes fabriquent des humanoïdes. Ils ont déjà ça. Donc, et moi, je ne suis pas un défenseur de ce système. Je vois simplement ce qui se profile devant nous. J'ai aussi connu, comme pas mal d'entre nous, l'arrivée de l'Internet, pendant laquelle on disait, mais ça va être la révolution, il n'y aura plus de boulot, comment on va faire, ça va être terrible. Et pour autant, entre guillemets, on s'en est sorti, on a réussi à développer une économie qui s'appuie sur autre chose. Donc je ne suis pas un défaitiste par rapport à ce qui est en train de se profiler devant nous. Par contre, je pense qu'il faut sérieusement imaginer que dans des métiers, effectivement, où l'IA peut jouer fortement, ça va faire une révolution dans l'emploi, et notamment chez les plus jeunes, qui vont arriver en plus avec des tâches qui vont disparaître, alors même qu'ils n'ont pas eu dans leur vie professionnelle la connaissance de comment ça se passait avant. Donc ça fait un double handicap. Et deuxièmement, sur même les chaînes robotisé, de production, je pense que malheureusement, les humanoïdes, on en aura beaucoup. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, le plus important, c'est la politique de formation qu'on met en place. C'est comment on prend à bras-le-corps le sujet pour se dire, dans ce contexte, quel est le sujet, quelle est la manière dont je mets en route un programme de formation qui permet de faire face à la situation. Or aujourd'hui, moi j'attends de voir le début du commencement d'un sujet qui nous amènerait à dire qu'on va réfléchir à la question. Donc je suis vraiment à ce stade-là. Personne, en tout cas en France, en Europe, j'ai l'impression, peut-être ailleurs, je ne sais pas, n'a pris le sujet à bras le corps. Mais en tout cas, il faut quand même se dire qu'on va résolument vers une société qui va effectivement automatiser beaucoup, passer beaucoup par les robots et l'IA. Et donc, il faut donc se dire sur les positifs, et moi je le suis. Il y a donc des choses qu'on pourra faire différemment. Bah, je prends juste un exemple. Il y a des problèmes mathématiques qui ont mis 300 ans à être résolus par des mathématiciens. Demain, l'IA, c'est une formidable manière de raccourcir le temps
où on résout les problèmes mathématiques. Dans la recherche, c'est incroyable.
Dans la médecine, etc. Il y a plein de sujets. Mais il faut des programmes de formation adaptés.
Il y en a deux qui ont pris le sujet à corps. C'est Olivier Babeau, présent sur ce plateau, et le docteur Alexandre, qui ont commis un livre sur le sujet. Arrêtez vos études et plongez-vous dans l'IA.
Ne faites plus d'études, apprendre autrement à l'ère d'Internet, c'est une inquiétude qui ne fait que se confirmer aujourd'hui. Alors en fait, en réalité, il y a plein de scénarios qui sont sur la table. Moi, je crois qu'à terme, en effet, il va falloir complètement revoir la répartition de la valeur, puisque il y aura probablement une forme d'automatisation d'une très grande partie de l'économie. On pourra continuer à se faire plaisir en se faisant des réunions, mais fondamentalement, le vrai travail sera fait. Il y a déjà des dark factories, effectivement, où on a plein de personnes.
Ça impressionne tout le monde, ça. Hein. C'est énormes entrepôts en Chine où il n'y a plus que des robots qui travaillent, plus
du Rolex, d'autres ils ont Dark Factory. On a chacun son truc. Je note que quand on dit oui, peut-être que dans 10, dans 15 ans, ça sera fait. Mais 10, 15 ans, c'est demain. Moi, j'ai un des étudiants qui sortent aujourd'hui de Bac+5. Ils sont censés cotiser 43 ans et demi, si je ne me trompe pas. Ça va arriver très, très vite. 10, 15 ans, en effet, aujourd'hui, est incapable de dire à quoi ressemblera le monde dans 10, 15 ans. Il est assez raisonnable de penser que les robots humanoïdes vont être très présents dans 10, 15 ans parce qu'en fait, ils sont déjà, le hardware est plutôt au point. C'est probablement le software qui est peut-être le moins au point avec la représentation du monde physique, mais ça va arriver assez vite. Le robot qui change un chauffe-eau, ça va arriver d'une façon qu'ils peuvent visser des boulons, etc. C'est pas tout de suite le cas, et peut-être qu'il est un peu plus protégé effectivement que le marketing, la communication, les gens qui sont dès maintenant aujourd'hui remplacés. Ce qu'on peut dire, c'est que avant que le monde devienne un monde d'oisiveté complète, il va falloir qu'on s'adapte beaucoup, qu'on soit agile, qu'on soit curieux, qu'on continue à apprendre, parce qu'il va y avoir, c'est la destruction créatrice schumpeterienne, mais dopée et au carré, puisque ça va être beaucoup plus rapide, ça va être intensif, ça va être des nouvelles compétences qu'il va falloir acquérir probablement peut-être en permanence toute sa vie. Et la dernière question subsidiaire, c'est quelle est la part de la population qui est capable d'avoir ce genre de vie?
Et puis une autre question, c'est comment redresser nos comptes publics si on n'a pas assez de monde qui travaille. Ce sera la question qu'on posera après la coupure pub. Peut-on encore éviter le choc fiscal? Vous verrez qu'un think tank d'économistes estime qu'il faudra trouver 113 milliards d'efforts et que les deux tiers passeront par l'impôt d'ici 2033. Et puis on reviendra sur l'échec du SCAF après les annonces d'Emmanuel Macron et de Friedrich Merz hier sur l'abandon du programme. Est-il encore possible de créer des géants industriels européens? Ne quittez pas, on se retrouve tout de suite.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business. BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, il est 10h pile, vous êtes toujours en direct sur BFM Business, c'est les experts pour une demi-heure de débat et de controverses avec Anaïs Voigilis, chercheuse associée au CEREJ de l'IAE de Poitiers, Ronan Lemoal, fondateur d'Épopée Gestion, un fonds d'investissement régional, et Olivier Babeau, président de l'Institut Sapiens. On a beaucoup parlé démographie, bombe démographique et conséquences économiques dans la première partie de l'émission. Le PIB, la croissance, c'est ce qui détermine les recettes du pays aussi. C'est pour ça qu'on a créé le PIB d'ailleurs. C'est pour savoir combien on allait pouvoir prélever sur l'économie historiquement. Le think tank Avant-Garde, que je ne connaissais pas, mais think tank non partisan, estime qu'il faudrait trouver 113 milliards d'euros d'efforts d'ici 2033 uniquement pour stabiliser le niveau de la dette. Et selon ces calculs, les deux tiers de l'effort pourraient passer par les impôts. Est-ce qu'on se dirige tout droit vers un nouveau ras-le-bol fiscal, Olivier Babeau ?
J'ai bien peur que ce think tank ait raison. Alors, il y a des gens raisonnables, hein, si je ne me trompe pas, il y a des gens comme François Eckhall dans le think tank.
Absolument, grand spécialiste qui était sur ce plateau il y a quelques jours, voilà. Xavier Jaravel, meilleur économiste, c'est vraiment pas des... Selma Mahfouz ou encore Pierre Rosanvallon, des gens plutôt sérieux.
C'est pas du tout des pignoufs et j'ai peur, même si... Dès qu'on prévoit, c'est comme disait Pierre Dac, prévoir l'avenir est difficile, surtout quand...
La prévision est toujours difficile, surtout quand elle concerne l'avenir.
Il y a plein d'hypothèses qu'on est obligé de faire sur l'évolution des taux d'intérêt, sur la croissance, probablement sur la démographie, etc. Mais je pense qu'il est assez raisonnable de dire qu'en l'état actuel, il y a un effort considérable à faire. Qu'en effet, ce n'est pas l'État lui-même qui va pouvoir amortir cet effort, car l'État, c'est pas grand-chose dans nos dépenses. L'essentiel de nos dépenses sont les dépenses sociales. Et c'est bien ce qu'a montré Jean-Pascal Beaufray. En réalité, le déficit des retraites est déjà très important. Il y a déjà une partie de nos recettes fiscales, en particulier de la TVA, qui sont orientées vers le financement de ce système. Et donc, il fait l'avantage de ce rapport que j'ai feuilleté très rapidement, c'est qu'il explique qu'il va faire flèche. Il va falloir faire flèche de tout bois. C'est-à-dire, il va falloir utiliser plein de petits moyens. Les franchises médicales, des formes de déremboursement. Sur les retraites, si je ne me trompe pas, ils disent qu'il va falloir désindexer les retraites les plus importantes, ce qui est le problème dont je parlais tout à l'heure. Et donc, il dit qu'on ne va pas pouvoir baisser vraiment la dépense publique elle-même. C'est les transferts sociaux qu'il va falloir, sur lesquels il va falloir travailler. Mais même là, ils disent, mais même là, ça ne suffira pas. Et c'est là que, je n'ai pas un point de désaccord, mais j'ai une question à poser. Le problème qu'on a depuis longtemps, c'est que notre système social est si lourd qu'il tue notre croissance. Et à mesure qu'il tue la croissance, on est obligé d'augmenter, pour financer le système social qu'on ne veut pas remettre en cause, d'augmenter les impôts. Si on continue à augmenter les impôts et les prélèvements, on va continuer à tuer absolument notre capacité à créer des emplois, à créer de la croissance, à créer de la valeur. Et donc, on ne fera que repousser la perspective, un peu comme celui qui a soif dans le désert voit l'oasis s'éloigner à fur et à mesure qu'il avance. Voilà, c'est pour ça que je suis un peu sceptique et je pense qu'il va falloir un big bang plus important que ça de notre système de protection sociale. J'ai nommé évidemment maladie et retraite.
Et oui, bon, 80 ans de la Sécu, mais le big bang, Anaïs Voigilis, est-ce qu'il est possible ?
C'est une bonne, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a un enjeu qui est un peu complexe. C'est-à-dire à la fois on doit réduire un déficit, financer la transition écologique.
Et oui, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de dépenses qui arrivent, hein,
financer,
dans la défense, l'école,
la question de
l'écologie.
Et ce qui, à mon avis, pose la question de parce qu'on n'est pas le seul pays à avoir un haut niveau d'endettement. La question, c'est plutôt la trajectoire et la nature de nos dépenses. C'est-à-dire que différencier ce qui est une dépense pour la consommation et maintenir le système d'une dépense liée à l'investissement. Enfin, ça, c'est un débat vieux comme le monde. On sait aussi que la question qu'on posait avant de la démographie ne va faire que complexifier.
Eh oui.
Cette problématique va rendre des arbitrages difficiles parce que c'est moins d'actifs, plus de retraites, plus de dépenses de santé, etc. Et ça pose une question, c'est-à-dire que on peut en effet faire un peu des réductions un petit peu partout, se dire qu'on va aussi cibler les hausses d'impôts, supprimer certaines niches fiscales. Je suis pas convaincue que ça soit la solution de long terme. Et la solution de long terme, elle est, si on raisonnait à l'échelle d'une entreprise, ça serait de reposer complètement la question budgétaire, faire une sorte de budget base zéro en se disant qu'est-ce qu'on a besoin, de quoi avons-nous besoin pour fonctionner, et ensuite reconstruire les choses petit à petit. Et ça demande des arbitrages, en fait. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont faites et qui sont peut-être pas essentielles si on reposait la question.
Ah bah c'est la question de l'efficacité de l'euro public dépensé.
C'est le nombre d'agences qui existent, c'est l'empilage de politiques avec pas forcément une efficacité, c'est un impôt qui est pas totalement efficace non plus, c'est la question de l'assiette sur qui elle repose et autres.
Travail, capital.
Et donc, la solution doit exister parce qu'il y a une multitude de rapports qui s'empilent depuis des années. Et par contre, c'est une question qui est éminemment politique et qui suppose de faire des choix et de savoir à la fin qui paye. Et dans l'élection présidentielle, on va s'amuser parce que chacun a une réponse bien différente sur où est-ce qu'il faut renier et qui il faut payer. Mais par contre, repartir d'une feuille blanche, on n'a peut-être pas encore fait cet exercice complètement.
Alors, c'est la question du cap que vous soulignez, Renaud Lemoyle, en début d'émission. Oui,
Alors, moi, qu'à la marge, il faille ajuster le système de protection sociale ici ou là, effectivement, on ne peut pas faire ça des mesurettes, mais bon, en tout cas, ça fait des choses importantes, faisons-le. Pour autant, je pense que ce qui tue, entre guillemets, une économie, et ce qui, en ce moment, parce qu'il faut bien le voir, fait que beaucoup d'entrepreneurs se posent des questions, c'est l'instabilité fiscale. Au-delà du niveau de la fiscalité, c'est le système qui change toujours, la fiscalité qui est toujours revue à la hausse.
Plus dommageable, c'est ce que vous nous dites, l'instabilité est plus dommageable qu'un niveau élevé de prélèvement obligatoire auquel s'est habitué.
Je voudrais bien poser le postulat suivant, dont on pourra dire qu'il est discutable, à savoir que chacun est prêt à payer l'impôt pour lequel il doit contribuer à la société.
Absolument.
Et à son fonctionnement.
Posons ce postulat. 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Débat, mais posons ce postulat qui, à mon avis, dans 80% des cas, au moins, est vrai. Ce qui ensuite est dérangeant, c'est qu'une politique fiscale qui bouge tout le temps, c'est une boussole qu'on n'a plus. C'est-à-dire que quand si on se remet sur le terrain économique, quand un acteur économique, une entreprise en l'occurrence, investit, un entrepreneur, il investit avec un cap qui tient compte de tous les paramètres autour de lui, y compris les paramètres fiscaux. Si ces paramètres fiscaux bougent tout le temps, il va d'abord être, il va peut-être des zones dans lesquelles il investit qui vont être moins profitables que d'autres, et puis surtout, à un moment donné, il va poser le crayon. Il va dire, quand vous aurez terminé et que ce sera stabilisé une bonne fois pour toutes, peut-être que je recommencerai à investir. Donc en fait, je pense que la fiscalité, c'est aussi un sujet de cap et de stabilité qu'on met en œuvre.
Ben oui.
Deuxièmement, je pense que ça pose aussi la question, effectivement, je ne sais pas s'il faut faire du BBZ, budget base zéro ou autre, mais je reviens à ce point-là qui est, à mon avis, fondamental. Ça pose la question des endroits sur lesquels on doit trouver l'État et les endroits sur lesquels on doit trouver les agents économiques privés. Je pense que l'État doit revenir fondamentalement. Moi, je suis pour l'État-providence tel qu'on l'a connu dans notre pays, mais je pense qu'à un moment donné, on est tombé.
On est allé trop loin.
On est dans l'excès. La classe politique est la caricature de ça. On est dans l'anecdotique chaque jour qui passe. Imaginons, je le dis parce que ça me vient spontanément, Charles de Gaulle tenir certaines postures tenues par nos hommes politiques aujourd'hui. Ça n'existerait pas. Parce qu'il était dans un autre registre de la posture, mais aussi de l'action de l'État, là où on attendait l'État. Donc remettons l'État là où il doit être, ce qui déjà générera ou des sources d'économie, en tout cas de réallocation de moyens vers d'autres secteurs, et ensuite redonnons effectivement la latitude au secteur privé pour qu'il soit présent là où le secteur privé doit être, notamment pour financer ces grands enjeux auxquels on fait face. Et si on fait de la stabilité et qu'on remet un peu l'église au milieu du village sur ces deux sujets, on aura résolu quand même beaucoup de problèmes, je pense.
Bah oui, Valéry Giscard d'Estaing disait qu'au-delà 40% de dépenses publiques, on était dans un système socialiste. On est à 53 ou 54% au JE.
Oui, il y a quand même un élément qui est un peu ennuyeux, c'est qu'on est en concurrence fiscale avec d'autres pays. Les mesures proposées par le rapport sont notamment, si je ne me trompe pas, une augmentation des droits de succession. On est déjà bien plus élevé que beaucoup de pays, puisqu'il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de droits de succession. Il faut le rappeler, tellement ça peut paraître lunaire dans un pays où on explique toujours qu'ils ne sont pas assez taxés. Et la deuxième chose, c'est que l'une des solutions, c'est d'augmenter en fait les impôts sur les entreprises, c'est-à-dire de désindexer les seuils. Et donc, en fait, ça revient à continuer à augmenter les prélèvements sur les entreprises, dont on sait très bien que, hors les fameuses pseudo-aides aux entreprises, en réalité, on est quand même, de toute façon, à un niveau supérieur par rapport aux autres. On ne peut pas charger la mule toujours plus en lui demandant de courir toujours plus vite. C'est pas possible. Et à un moment donné, il va falloir choisir. Et donc, probablement, puisque c'est le budget base zéro ou la capacité à réinventer le système, il ne se fera pas sans qu'il y ait une crise importante en réalité. Le jeu des intérêts croisés, le jeu de l'inertie, les intérêts au statu quo et aux discours alternatifs sont tellement forts que malheureusement on est très nombreux à être convaincus que rien ne se passera avant une crise majeure.
Mais elle n'arrive pas à cette crise, Olivier Babeau. Souvenez-vous du rapport Pébrot sur la dette, 1000 milliards d'euros il y a 15 ans, on tirait la sonnette d'alarme.
Jusqu'ici tout va bien.
Et puis finalement,
dit le gars qui tombe de la
de tourner, non ?
Voilà, jusqu'ici tout va bien.
Bon. Anaïs, la question de la présidentielle finalement qui va se poser, on va en terminer par là un dernier tour de table, mais la réalité c'est, ça va être qui va payer, c'est un peu ça le sujet,
dans tous
le
les
choix
mondes,
qu'il va falloir faire.
Dans tous les mondes c'est la question qui se pose, hein. Sur les retraites c'est qui paye, sur la dépense publique c'est qui paye, c'est la question de qui supporte le poids de notre modèle social qui a aussi plein d'intérêts. Alors c'est vrai que j'entends qu'ailleurs, il n'y a pas la même fiscalité, il n'y a pas les mêmes contraintes, etc. Mais il n'y a pas non plus totalement les mêmes services rendus derrière. Donc il y a une question d'équilibre. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on veut collectivement, qu'est-ce qu'on veut assumer collectivement et qu'est-ce qu'on ne juge pas nécessaire. Et c'est une vraie question de société. Bien sûr, le système de santé, il est moins lourd ailleurs, mais parce qu'on passe beaucoup par un système d'assurance privée où les mieux dotés peuvent mieux se soigner que les autres. Ce qu'on est en train de créer, hein, de manière indirecte en France, hein, parce qu'on en est entre ceux qui peuvent contourner ou pas, donc on va avoir le pire des deux mondes.
C'est ça, hein, sur l'école, sur la santé.
On ne peut pas dire que la France est le seul pays où les gens sont soignés. Je veux dire que les autres pays, c'est pas, les gens ne meurent pas
alors,
dans
attendez,
les caniveaux.
Non, mais avec une inégalité, légende complète. C'est pas du tout ce que je n'ai dit. Je
ne
suis pas d'accord avec le fait qu'on travestisse mon propos comme la balle perdue que se sont pris les gens de Duralex tout à l'heure. J'ai dit qu'en France, on avait un système de santé qui était largement financé par le public. Et qu'ailleurs, ça ne veut pas dire, parce que ça repose principalement sur le privé, qu'on laisse mourir les gens dans le caniveau. Ça veut juste dire qu'il y a un système d'assurance privée beaucoup plus développé que ce que nous avons en France, où n'importe qui va à l'hôpital sera soigné. Ça veut pas dire qu'on laisse les autres mourir dans le caniveau. Mais vous avez certaines thérapies, si vous n'avez pas de mutuelle, vous n'êtes pas soigné. En France, si vous n'avez pas de mutuelle, mais que vous avez certains problèmes, vous allez à l'hôpital, vous êtes soigné.
J'aime notre pays, son système, je l'aime aussi comme vous. Simplement, je pense qu'il faudrait peut-être redire les choses telles qu'elles sont, de manière à ce qu'on puisse réconcilier un peu l'équation qui est la nôtre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de redistribution sans création de richesse. Donc il n'y a pas de redistribution, ce n'est pas, je dis Emmanuel Macron parce que c'est lui aujourd'hui, mais ce n'est pas le président de la République ou le Premier ministre qui distribue l'argent. L'argent, c'est pas eux qui le créent. Il est créé par la richesse de ceux qui font l'économie, c'est-à-dire les entreprises, entrepreneurs. Si des gens commençaient par dire, pour qu'on puisse redistribuer, assumons le fait qu'il faut que des gens deviennent riches pour ça, on résoudrait, et que c'est pas grave, on résoudrait une bonne partie du problème. Parce que moi qui suis très attaché à ce système qui est celui de la France, j'ai compris depuis bien longtemps comme vous, qu'effectivement, s'il n'y a pas des gens qui créent des entreprises, qui gagnaient beaucoup d'argent, qui permettaient de payer beaucoup d'impôts, qui venaient ensuite dans la poche de l'État pour permettre d'avoir un système de santé, un système de protection au sens large tel qu'il est aujourd'hui, ça ne marchait pas. Mais dans notre pays, on a érigé en fait en totem le fait de dire que chez nous, c'est l'État qui distribue l'argent. L'État, il ne crée rien.
Oui, et comme si la redistribution était moteur de prospérité.
Bien sûr,
alors, ça rétablit des équilibres.
Mais
ça ne crée pas la richesse.
On n'assume pas dans ce pays le fait de dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui réussissent. Ou alors c'est caricaturé quand c'est dit. On le fait peut-être de manière caricaturale quand on le fait. Mais il faut accepter de dire. Et d'ailleurs, pourquoi aux États-Unis, parfois, qui n'est pas forcément le modèle, effectivement, sur un certain nombre de sujets, les choses sont parfois plus faciles à faire passer? Parce qu'il est reconnu aux États-Unis, et c'est fait assez régulièrement, que des Warren Buffett, des Bill Gates et d'autres donnent beaucoup d'argent pour qu'effectivement le système puisse fonctionner. Alors, c'est sans doute que la petite surface émergée de l'iceberg, mais ça suffit pour une partie en tout cas, ou avec sans doute d'autres aspects, à justifier qu'il peut qu'il y ait des gens qui créent de la richesse pour que l'économie fonctionne. En France, on n'est pas capable d'assumer ça. D'ailleurs, voyons le débat qu'il y a eu sur Arnaud et quelques autres, que je trouve assez hallucinant. C'est des gens qui payent quand même beaucoup d'impôts en France. Et
c'est le débat de la justice fiscale, Ronan Le Moal, une passion française.
Voilà.
La justice fiscale, il faut le rappeler, c'est un terme qui peut justifier absolument tout et n'importe quoi et qui n'a absolument aucun sens. C'est comme l'intérêt général, c'est un truc qui peut être utilisé pour dire n'importe quoi. J'en profite pour faire une petite précision sur Duralex. Duralex est un scandale absolu. C'est même plus un canard boiteux, c'est un canard mort en réalité. On a mis énormément d'argent public dans un truc dont on savait très bien qu'en fait ça n'a aucune chance. On ferait mieux d'essayer de susciter les industries de demain avec lucidité plutôt que d'essayer de soutenir pour des raisons souvent de communication des trucs qui n'ont aucune chance sur le papier à aucun moment de pouvoir avoir une rentabilité. Il faut avoir un peu plus de lucidité sur les conditions de la concurrence France sur nos capacités à avoir un avantage par rapport aux autres. Voilà. Ça fait partie des trucs, quand on regarde sur le papier tout ce qu'on y a mis, ce que la région y a mis, les pauvres actionnaires qui ont été arnaqués, c'est une catastrophe industrielle. C'est
le les petits actionnaires, alors on rappelle, Duralex qui est en redressement judiciaire, après avoir fait appel à l'actionnariat de tout un chacun, et on se rend compte que le compte de résultat fait que...
Il y a plein d'argent public. Hein.
Et pas mal d'argent public, et le résultat fait que on voit que ça ne fonctionne toujours pas, malheureusement. Une réponse,
Anaïs, on passe au scaf. Je ne peux pas faire de choix industriels, je dis juste que dire sur un plateau, nous on a Duralex, les Chinois
on a
des robots...
Factory.
On n'a pas
Dark Factory.
On a des robots humanoïdes.
Mais c'est la vérité.
C'est juste, en fait, je ne dis pas que ce n'est pas une vérité. C'est juste, faites attention à ce que vous dites, vous vous exprimez publiquement, il y a des gens derrière, et balancer des paroles qui font
Parce que dire
bien,
la vérité, c'est pas toujours
très,
mieux.
Ça fait de très beaux tweets, mais vous balancez ça
La question, c'est d'être dans le réel ou dans le fantasme.
Mais balancez votre petite phrase, n'apporte rien en réel.
On explique calmement qu'il y a des innovations d'un côté et des industries de l'autre. Il faudrait continuer en expliquant qu'on ne montre pas les différences, qu'on n'explique pas qu'on est en grave. Il ne s'agit pas de petite phrase, il s'agit de décrire.
Ça n'avance pas. Ça va beaucoup sur le débat économique.
On
est là pour dire aux autres.
On va terminer pas tous ensemble parce que sinon.
Une dernière chose, c'est facile de dire que la Chine a des usines très modernes. On a 200 ans d'industrialisation en France, donc on a des sites qui sont forcément moins modernes, ce qui pose plein de questions sur les choix industriels, là où on place l'investissement, etc.
Il y a un saut technologique plus rapide.
Et face à des usines qui ont une vingtaine d'années. Mais moi, le monde est complexe, et la petite phrase qui est là pour blesser les autres, je ne crois pas qu'elle serve le débat.
Je ne crois pas qu'il y ait volonté de blesser qui que ce soit.
On essaie d'expliquer la réalité. On ne fait pas une thèse de doctorat en 400 pages sur chaque sujet. Donc on est obligé de dire des phrases relativement courtes. Mais je pense que décrire le réel, c'est un peu. Pourquoi ? Si on n'est pas là pour ça, je ne vois pas ce qu'on fait là. On peut tous aller.
Il faut dire ce que l'on voit. Comme disait Charles Péguy, encore plus dur, voir ce que l'on voit. Allez, on continue sur l'industrie, mais au niveau européen, Anaïs. Ensemble, si vous le voulez bien, avec cet échec du SCAF annoncé, confirmé, on l'attendait, mais confirmé hier par le président de la République Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz. Dassault et Airbus n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur l'avion de chasse européen qui était un grand projet industriel européen. Ça pose un peu la question de la relation franco-allemande aujourd'hui. Est-ce qu'on est encore capable de construire des grands mécanos industriel au niveau européen, Anaïs Vaugilis. Je rappelle, grande spécialiste du monde de l'industrie.
C'est amusant que vous le présentiez comme ça, parce qu'en fait, des champions européens, on a eu Airbus, on n'en a pas eu 36 000.
Et oui.
On veut à chaque fois reproduire un champion de quelque chose, on a le champion des batteries, le champion... Et moi, je pense que ça révèle que l'Europe, elle veut sur le papier des champions, avec des additions d'intérêts nationaux, des doctrines militaires différentes, des industriels qui vont chacun défendre leurs compétences critiques. Et donc, tout ça ne se marie pas très bien. Après, la deuxième question, c'est l'amitié franco-allemande, qui est un couple dont on nous rabat les oreilles depuis...
Et qui est une expression qui n'existe qu'en français, en allemand.
Depuis quelques décennies. À mon avis, c'est une erreur. En fait, on ne construit pas une politique industrielle sur l'amitié. C'est, est-ce qu'on a une politique industrielle européenne qui est portée sur le plan européen, ou est-ce qu'on a des États qui coopèrent ensemble pour construire quelque chose ? Or, aujourd'hui, on voit bien qu'en matière militaire, on se tire la bourre, et que quand on regarde l'état des commandes des différents pays européens, ils se tournent rarement en premier lieu vers la France pour réaliser leurs commandes. Alors, ça pose plein de questions. Ça pose la question d'intérêts géopolitiques et stratégiques à l'égard des États-Unis. Ça pose aussi peut-être parfois la question de ce qu'on fait réellement en termes de produits. C'est bien d'avoir les meilleurs produits, mais si on ne les vend pas, c'était longtemps le cas du Rafale, bien finalement, ça n'est pas pertinent. Et il y a trois choses...
Grande réussite aujourd'hui, le Rafale.
Oui, aujourd'hui, mais pendant des années, on a pas réussi à le vendre. C'est devenu une grande réussite quand ça n'est peut-être plus le meilleur avion du monde. C'est un avion extrêmement performant, mais combien de décennies a-t-il, d'années avant que ça devienne un succès commercial. Et ça pose aussi la question du rôle du politique là-dedans, sur la capacité à aller chercher des ventes. Et ça m'amène trois constats. C'est que sur le SCAF 1, je pense que l'Europe pose toujours la question de comment on distribue la valeur, comment on répartit les emplois avant d'avoir créé le produit et avant d'avoir la valeur créée. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il n'y a pas de souveraineté sans leadership. Penser que le leadership industriel peut être partagé entre les États est, à mon avis, une erreur. Il faut qu'il y ait une tête de pont. que ce soit un État, une industrie, et que derrière, il y a une filière. Hein, c'est ce qui se passe dans toutes les filières, d'une certaine manière. Et la troisième chose, qu'il y a une question de profondeur industrielle en Europe, c'est-à-dire que en matière de défense, on est mieux doté que dans d'autres secteurs, mais on veut faire les choses et en même temps, on n'assume pas forcément toutes les compétences qu'il y a derrière. Et dernier point, sur l'Industrial Accelerator Act, je pense que c'est insuffisant.
Le texte européen présenté et porté par le commissaire français Stéphane Séjourné pour faire face notamment aux surcapacités chinoises. Profondeur industrielle, dit Anaïs Voigelis, profondeur financière aussi, Renaud Lemoine.
Contextualiser ça par rapport à ce qui se passe autour de nous. C'est toujours intéressant parce que ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, c'est que les Américains ont décidé qu'ils ne seraient plus le parapluie de l'Europe. Ils nous l'ont dit, ils l'ont fait savoir, et d'ailleurs ils agissent en conséquence. Bon, les Chinois, je ne vais pas y revenir, on voit tout ce qui se passe. Et encore une fois, je ne suis pas un défaitiste, on s'en fout, mais quand on voit les Chinois, c'est une tête qui décide et on fait.
Et, oui.
et c'est un plan à 10 ans, ou à 20 ans, ou à 50 ans. Et d'ailleurs, c'est quand on les bouscule, ils ne bougent pas, parce que de toute façon...
C'est la force des autocraties.
Tant que vous voulez, nous on avance. Donc pourquoi je dis ça? C'est parce qu'une fois qu'on a contextualisé ça, le fait effectivement qu'il y ait des atermoiements ensuite au niveau européen sur des sujets qui peuvent être considérés comme stratégiques, c'est par définition très dangereux, parce que ça veut dire que dans le même temps où on a des gens qui, eux, avancent d'un seul homme avec des idées très claires sur là où ils vont, nous, on n'est pas capable de se mettre d'accord. Donc, pour moi, c'est un vrai sujet, effectivement. Alors, je ne sais pas si ça peut être leadership, mais de gouvernance. Oui. Je pense qu'on atteint les limites sur certains sujets. Je ne suis pas un expert en la matière, mais de la gouvernance européenne. Alors, pas à 27, mais souvent à 27.
C'est ce que dit Mario Draghi.
Et sur d'autres sujets. Et je pense qu'il est temps, peut-être, de revenir à des sujets à géométrie variable. C'est-à-dire, si on n'est pas capable de se mettre d'accord à 27, c'est dans bien des cas sur les sujets, revenons à des plus petits comités, c'est qu'on le fait. Si à la fin, on n'est pas d'accord pour se mettre, on n'est pas capable de se mettre d'accord à deux, faisons nous-mêmes le sujet sur lequel on pense qu'il faut atteindre une certaine forme de leadership au niveau européen ou international. Parce que sinon, on va prendre du retard, ou alors.
Oui, on prend déjà.
Ça, ou alors, ayant une Europe qui soit une Europe fédérale. J'ai pas dit que je voulais ça, mais soit on veut une Europe fédérale, et dans ce cas-là, il y aura une seule tête, entre guillemets, on avancera. On a vu les quelques sorties qui ont pu être faites par certains ou certaines sur le sujet et les réactions que ça pouvait susciter, je suis pas sûr qu'on soit tout à fait mûr pour y aller. Mais si c'est pas le cas, et moi je peux le comprendre, dans ce cas-là, ayons des sujets qui soient traités à géométrie variable. Et quand un leadership européen, même à deux, n'est pas capable d'être identifié, traçons un sillon sur celui qui est capable d'avancer dans la voie qu'il pense la plus pertinente.
C'est ce que propose Mario Draghi, avec son fédéralisme pragmatique, c'est-à-dire que si ça fonctionne pas à 27, mettons-nous à 6, 7, 8, 9, et puis avançons, Olivier Babeau.
Oui, c'est emblématique des problèmes de l'Europe. En stratégie, on dit le risque, c'est d'être stuck in the middle. On n'est ni haut de gamme, ni bas de gamme. On est entre deux choix stratégiques. C'est un peu le problème de l'Europe. Soit il aurait fallu aller vers un vrai fédéralisme qui permet d'avancer, d'avoir un numéro de téléphone et puis de prendre des décisions. Mais ça veut dire d'abdiquer beaucoup et de faire des pays, des grandes régions. Soit on gardait une forme, évidemment, de souveraineté nationale beaucoup plus forte. Là, on est un peu entre les deux, ce qui alimente un mécontentement.
Une union d'État-nation. Disait Jacques Delors.
Voilà, c'est censé nous apporter la puissance, on l'a pas. Censé nous protéger économiquement, politiquement. L'immigration, on connaît le sujet aussi, etc. Et la défense, ça cristallise ça encore plus parce que c'est extrêmement difficile en réalité. L'idée d'une politique commune de défense est un fantasme depuis très longtemps, mais ça ne peut pas aller. C'est-à-dire que l'idée que l'Élysée doit dépendre d'une décision de quelqu'un aux Pays-Bas ou en Allemagne pour avoir le droit d'envoyer des gens où il veut, c'est quelque chose qu'on n'est pas prêt à accepter, tout simplement. Sur le côté industriel, on sait qu'effectivement il y a le problème des concurrences et que on a des formes d'alliances, ces alliances toujours entre concurrents, donc c'est à qui se tire la bourre, entre qui va être celui qui va capter la valeur, qui va en prendre le plus. Ça a marché avec Airbus, mais c'est très difficile à répliquer. Et puis peut-être la dernière chose à dire, c'est qu'il y a peut-être une toute petite lueur d'espoir, c'est que le SCAF, c'est un avion embarqué avec un humain à l'intérieur. Je ne connais pas tellement en défense, mais moi j'ai l'impression que de plus en plus, c'est quand même pas l'avenir de mettre un humain qui est hyper rare, qui peut se faire exploser en deux secondes. C'est extrêmement cher. L'avenir, c'est les drones. Et j'ai l'impression que le projet d'Eurodrone, même si c'est peut-être ce qui est dit, mais pas qui est penser, est encore dans les tuyaux. Donc l'idée qu'on puisse construire des drones ensemble est encore quelque chose qui est envisageable. Maintenant, est-ce que c'est vraiment l'évolution l'évolution de la défense? C'est compliqué en ce moment technologiquement, évidemment.
Au-delà des sujets de défense qui, évidemment, touchent au régalien profond des États, est-ce qu'on constate en Europe, quand même, sur d'autres secteurs, l'émergence de champions européens? Est-ce que ces fusions transfrontalières, dans le monde de la finance, on en parle beaucoup, Unicredit, Commerzbank... pour ne parler que du dernier dossier, où est-ce qu'on a vraiment du mal parce qu'on a 27 marchés très fragmentés, Anaïs Vangelis?
On a du mal. On a des groupes nationaux, alors qui sont nationaux, mais avec un capital extrêmement diversifié, mais qui finalement ne... Certains arrivent à l'échelle européenne, mais en général, quand ils arrivent à l'échelle européenne, ce sont des groupes à échelle mondiale. On a eu quelques fusions avec Luxottica, qui dans le domaine
Essilor Luxottica,
qui peut être un exemple. On peut donner l'exemple d'Airbus, mais je crois que là où il faut faire une différence, c'est en fait quand est-ce qu'il y a l'initiative privée qui va porter une fusion, et encore faut-il qu'elle soit acceptée par le droit.
Puis les différentes autorités nationales.
Parce qu'on a échoué sur Alstom Siemens, par exemple. Donc quand l'initiative privée le porte, je pense qu'on peut aboutir des choses. Je pense pas que ce soit la capacité des États pour des questions de souveraineté, de rapport des forces et autres, de construire ces champions européens. Ils peuvent créer les conditions d'émergence, mais c'est pas...
C'est aux entreprises de le faire. On l'a vu dans le monde de la finance, Renaud Lemoyle,
on a vu
la crise financière, BNP Paribas.
Après, le monde de la finance, c'est un peu différent parce que je pense qu'il y a deux sujets qui font que c'est compliqué. Il y a le sujet de la souveraineté, effectivement. C'est quand un champion européen émerge, ça veut dire que, quoi qu'on en dise, quelques-uns perdent de la souveraineté sans le dire, mais parce que c'est plus eux qui ont le leadership. Et puis un deuxième sujet, c'est les flux, les capitaux. C'est-à-dire qu'en fait, quand on gagne au niveau européen, en tout cas, quand dans un secteur on gagne, on peut perdre dans un autre. Alors c'est vraiment arrêt dans le côté service financier, parce que service financier, quelque part, c'est quelque chose où les capitaux circulent beaucoup plus librement, il n'y a pas d'interférence. Mais par exemple, dans l'agriculture, on a vu sur les grands sujets agricoles récents, quand il y en a un qui gagne sur le secteur automobile avec des accords avec l'Amérique du Sud, l'autre va perdre sur le secteur agricole. Donc en fait, c'est pas les vases communicantes dans le même pays. Donc ça pose des vrais problèmes. Et l'émergence d'un champion européen pose aussi ce genre de considérations. Encore une fois, c'est moins vrai dans le secteur financier, parce que la liberté de circulation des capitaux est telle que c'est moins évident sans doute.
Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois, Anaïs Vangelis, Ronan Lemoyle et Olivier Babot, pour cette émission passionnante disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business et toutes les plateformes de diffusion. Tout de suite, vous retrouvez BFM Entreprise spécial leadership animé par Sandra Gandoin. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, 9h30, 10h30 en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.